Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire un petit débrief de ma Hard Rock 100, qu'évidemment je n'ai pas couru hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, mais sur laquelle j'ai eu la chance d'être accréditée pour Esprit Trail. Et voilà, je vais faire un mixte. Il y aura un podcast. Je vais vous mettre aussi des informations par écrit sur le site. Comme ça, voilà, tout le monde sera content parce que bon, je vais pas vous faire un débrief écrit puisque ce n'est pas ma course, évidemment, c'était juste un événement que moi je suivais comme journaliste. Mais j'ai eu pas mal de questions et je sais que cette course suscite pas mal d'interrogations, justement. Et donc, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit podcast retour, débrief, expérience. Donc, déjà. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, dans la Hard Rock 100, et donc le 100 est pour un 100 miles, c'est organisé tous les ans en juillet dans le Colorado. Donc, on va dire qu'aux États-Unis, pour moi, en tous les cas, il y a trois grandes courses. La Western States, qui est donc plus tôt dans la saison, juste avant, enfin pas très très longtemps avant, 3 semaines je crois à peu près. La Hard Rock qui est donc au Colorado, plutôt dans le sud du Colorado d'ailleurs, pour situer ça un peu. Et le Leadville 100 qui est pareil, un 100 miles. Leadville est une ville un peu plus haute au niveau géographique que la Hard Rock, ce qui explique aussi d'ailleurs enfin, un impact hein, au niveau du relief et tout, il y a un peu moins de dénivelé. Et le Leadville pour la ville Leadville, tout simplement, là où, petite anecdote, fun fact, où vit en fait Courtney et son mari. Donc la Hard Rock est organisée au départ de Silverton, dans le comté de San Juan. Alors Silverton, c'est très simple, hein, Silverton maintenant T-O-N, mais à la fin, c'était Town pour ville, la ville de l'argent. C'est une ville minière. La ville a fait fortune à l'époque où il y avait une exploitation qui était sur une grande partie du Colorado. Il y avait des mines d'or, des mines d'argent, enfin plein de métaux. Donc c'est vraiment ça, le principe en fait de cette course, c'est de vouloir rendre un hommage à ces mineurs de fond qui ont quelquefois donné leur vie pour cette industrie qui a fait la fortune de la région. Silverton, c'est vraiment. J'ai partagé pas mal de photos et de vidéos sur mon Insta, je vous laisserai aller voir. C'est vraiment une rue. Alors on me l'avait dit, mais je ne mesurais pas à quel point c'était vraiment une rue. Parce qu'en fait, vous avez une rue de bitume et tout de suite les petites rues parallèles, genre il y en a deux de chaque côté, c'est du chemin. C'est-à-dire que vous êtes sur du gravier. Il y a du gravier, du sable et c'est même pas, il n'y a pas de route. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant parce que ça donne un résultat. On a vraiment l'impression d'être dans la conquête de l'Ouest, puisque en plus l'immobilier est resté assez marqué Far West. Donc j'avoue que ouais, là pour le coup, vous êtes dépaysés. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une course qui est organisée depuis les années 90. Il y a eu plusieurs éditions d'annulées pour des raisons de météo, parce que il y a de la neige, comme ça monte à plus de 4 000. Il peut y avoir encore de la neige et qui rend vraiment certains passages trop trop compliqués, donc il est arrivé qu'elle soit annulée pour ça. Il y a eu aussi une annulation pour feux de forêt parce que le Colorado subit des feux de forêt assez régulièrement. Je ferai peut-être une parenthèse là-dessus, quoique non, je peux en parler tout de suite. En fait, ce qui surprend énormément quand on va au Colorado, c'est que la montagne, d'abord, est différente au niveau géologique, évidemment, que nos Alpes, hein, tout simplement. Mais ce qui surprend le plus, surtout quand vous allez vous balader, et ça par contre c'est une information à la rigueur j'aurais dû mettre dans le, enfin que je vais mettre dans le débrief du voyage, parce qu'elle est très très importante. Autant en France, on a l'habitude de nos GR, de nos montagnes où on trouve assez facilement des refuges, des petits spots en haut où on peut boire un café et tout, qui sont soit le résultat d'exploitation parce que c'est des stations de ski et tout. Autant aux États-Unis, c'est mort. Le Colorado Trail, d'ailleurs, Claire en avait parlé. Tiens, je vous remettrai le lien d'ailleurs du podcast qu'on avait fait après son non-stop sur le Colorado Trail. C'est la problématique, c'est qu'en fait, il n'y a pas de refuge, il n'y a rien, il n'y a quasiment rien. Si vous voulez manger, boire, à part de l'eau évidemment, vous êtes obligé de redescendre dans les vallées. Il n'y a aucune exploitation, il y a pas, très peu d'exploitation agricole également. Ça, c'est la grosse surprise. En fait, au début, vous vous demandez, mais tiens, c'est quoi la différence? Et vous avez des kilomètres et des kilomètres, et je parle de dizaines et des dizaines de kilomètres, sans rien dans la montagne, sans aucune preuve, entre guillemets, de vie humaine. Et c'est quelque chose qui est vraiment très, très particulier à vivre, parce nous, on n'a finalement pas autant l'habitude que ça. Et ce qui entraîne également une exploitation, il n'y a pas d'exploitation des forêts au sens français. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de gros nettoyage et ce qui fait que quand il y a un incendie, ça peut cramer assez vite parce que, ou un peu plus vite. Donc voilà, il y a des petits incendies. On nous a dit aussi qu'il y avait, parce que quand vous vous baladez, vous voyez des forêts, enfin des tronçons qui sont assez abîmés. Vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Et en réalité, ils ont beaucoup d'avalanches. Également, beaucoup de petites avalanches. Je ne sais pas si c'est vrai, il faudrait que j'aille vérifier, mais un des guides que j'ai eu pendant mon voyage touristique qui a fait suite à cette hard rock, il m'a dit que c'était l'état où il y avait le plus grand nombre d'avalanches, voire même d'avalanches au monde. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas, on en a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits couloirs d'avalanches. Donc je serais assez susceptible de le croire. Surtout que la végétation montant très très haut par rapport à chez nous, ça se voit encore plus visuellement parlant après coup. Donc pour en revenir à la course en elle-même. La Hard Rock, c'est vraiment très particulier puisque il y a moins de 150 participants à chaque édition. C'est-à-dire, c'est que dalle. Enfin, vraiment, c'est un truc. Alors là, c'est même plus de la course de village parce que chez moi, il y a plus de 150 inscrits sur les courses de village. C'est vraiment très très étonnant parce que pour une course qui est assez connue dans le monde entier, avoir aussi peu de personnes au départ, voilà. Surtout que sur le principe. Bien entendu, il pourrait augmenter et sans que ça pose aucun problème, ni sur les chemins, puisque les chemins sont quand même assez larges, des choses comme ça. Enfin, on va dire que techniquement parlant, il n'y a absolument aucune raison de se limiter à 150 participants grand max. Là, ils étaient 145 enfin, au départ. Donc, c'est quelque chose d'assez étonnant et c'est clairement la volonté d'un organisateur de ne pas aller plus haut. Sachant que il y a 500 bénévoles. Donc ça donne un espèce de truc assez dingo d'une communauté quasiment qui va pendant plus de 48 heures, enfin plus que ça, puisqu'on va dire qu'il y a le temps de remise de dossard, plus le temps de à poste, enfin, après la course, remise des prix et tout, va vivre pour très peu de coureurs. Donc c'est vrai que ça fait vraiment une ambiance qui est très très particulière. Je ne détaillerai pas le système, c'est une loterie pour pouvoir être qualifié qui est, mais alors, une usine à gaz totalement dingo. Donc en gros, on va faire simple, la probabilité d'être tiré au sort à la Hard Rock est quand même très 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 minime, même pour les élites, puisque Ludo Pommeret, qui est donc notre Frenchie qui gagne cette année, Ludo a attendu 5 ans sa qualification. Donc, et au départ, là, il y avait un coureur du peloton qui a attendu 12 ans avant d'avoir son tirage au sort. Donc, c'est quasiment une vie de trailer à attendre. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, il faut avoir ça en tête. Cette course, je sais, fait un peu rêver, mais clairement, elle n'est vraiment pas accessible au grand public ou de façon très, très, très compliquée. Vous serez qualifié à l'UTMB bien avant d'être qualifié à l'Hard Rock, à mon avis. Le principe de la course, donc on est sur à peu près 100 miles comme d'habitude, un dénivelé de 10 000 comme d'habitude, mais là je laisserai par contre, je vous laisserai aller écouter les podcasts de débrief que Ludo est en train d'enregistrer, enfin voilà, ou des autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Ludo. Mais pour résumer, beaucoup de passages à plus de 3 000, voire même 4 000, ce qui fait que l'unanimité des coureurs Et sur la, enfin, parle de la difficulté, c'est l'altitude. Parce qu'il faut gérer ça. Et il faut gérer certains murs. Ils aiment bien le côté kilomètre vertical, brutasse, qui te fait monter à 4000. Donc voilà, c'est une course qui est très dure. Et c'est vraiment quelque chose qui est très souvent revenu quand je discute avec les coureurs, c'est le côté brutal. Mais assez paradoxalement, et je pense que ce qui explique ça aussi, c'est que bah, les gens sont vraiment préparés. Le taux de finisher est un des plus élevés que j'ai jamais vu sur un ultra, parce que de ce type-là, cette année, on était à plus de 80%. J'avoue que je ne suis pas allée voir avant d'enregistrer ce podcast, les taux de finisher des années précédentes. Mais voilà, ça vous donne une idée, c'est quand même, c'est une course où finalement les gens finissent beaucoup plus que les autres, parce que je pense que vraiment ce côté loterie et le sentiment que tu as ta chance et c'est une fois dans ta vie et pas deux, fait que les gens se préparent beaucoup. Les élites, bah, je pense que vous avez là aussi tous suivi. On essaye d'arriver tous en avance, de faire des rocos, de s'habituer à l'altitude et tout. Je pense que pour faire un clin d'œil à Alex, la tente hypoxie ne suffit pas à finir la hard rock. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi certainement ce côté un peu particulier de cette course, l'investissement temps, énergie qu'elle va demander pour en voir le bout. Le parcours, oui, enfin blague ou nette, se fait une année dans un sens, une année dans l'autre. Donc je vous dirais bien que ah, c'est cool, parce que si vous êtes qualifié deux fois de suite, vous ne ferez pas le même parcours. Mais bon, comme vous l'avez compris, c'est pas simple, simple. L'ambiance, donc vraiment, c'est bah, c'est ultra convivial. C'est une petite salle des sports où tout le monde vient. Le briefing, tous les coureurs sont là, mélangés, les coureurs élites sont là. Alors je ne sais pas si, enfin quasiment oui, ils étaient tous là en tous les cas. L'organisateur met en avant, avant les élites, mais surtout en avant justement les coureurs du peloton, ce qui est assez sympa, il faut bien le dire. Donc voilà, ils ont, tout le monde a une balise qui marche quand elle veut, donc ça ne sert pas à grand-chose, je vous dirais bien. Enfin, en tous les cas, celle de Ludo a bien bugué. Donc, rendant le suivi un petit peu compliqué, parce que tout simplement, ça ne capte pas. Il y a vraiment des zones, énormément de zones blanches. La particularité de cette course, qui est les particularités qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis et qui est assez obscure pour beaucoup de Français. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, il y a des ravitaillements simples. Il y a des ravitaillements où les crews, donc les assistants, sont autorisés. Il faut savoir que vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de coureurs proportionnellement ont une crew en réalité. Il n'y a pas que, là pour le coup, c'est pas que les élites. Et c'est ce qui rend aussi cette course un peu particulière. Et quand ils parlent de famille, c'est que réellement, quasiment tous les coureurs vont avoir une crew qui les suit. En plus, voilà, même si c'est pas tous, mais vraiment beaucoup proportionnellement, je veux dire. Voilà, sur 145. Et il y a surtout ce système de pacer qui est assez obscur. C'est donc un ou deux coureurs qui ont le droit d'accompagner le coureur qui lui est sélectionné pour, alors pas, ils ne font pas l'assistance du tout. Ils ne sont là que pour guider le coureur, l'aider, l'encourager. Mais c'est quelque chose qui est très important. Ils n'ont pas le droit de faire de l'assistance. Donc, ils sont eux-mêmes en autonomie. Vous n'avez pas, normalement, vous ne devez pas donner. Alors, j'imagine quand même que si le coureur est en grande défaillance, bon, tu as le droit de donner ton eau. Mais voilà, sur le principe, il ne s'agit pas pendant ces 70 km où il va y avoir un pacer, que par exemple le coureur se débarrasse de son sac et le donne à son pacer, ou voilà, ça c'est absolument interdit. De même, les ravitaillements hors zone sont aussi interdits. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un pacer, ce n'est pas parce que vous avez des crews, que vous avez le droit de tout faire pendant la course. Et c'est d'ailleurs, hélas, ce qui s'est passé pour Xavier Thévenard en 2018. Je pense que certains s'en rappellent, puisque il a été disqualifié à cause de ça. Il a, sans réfléchir, je pense, enfin, c'est en tous les cas, c'est ce qu'il a dit, et j'en suis moi-même assez convaincue. Il a pris de l'eau dans la voiture qui lui faisait sa crew parce qu'ils étaient très en avance, ils se sont arrêtés, pas réfléchis, et pas de chance, ils ont été vus par quelqu'un. Et voilà. Donc, disqualifié à 15 km de l'arrivée alors qu'il gagnait largement. C'était devant Jeff Browning, le coureur américain, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, c'est pour vous dire, c'est assez rigolo d'avoir cette espèce de mélange entre ce sentiment qui a presque beaucoup plus de liberté que sur les courses françaises, parce que c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui vient courir avec toi, ça rend un côté un peu fun. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des règles très précises et qu'il faut les respecter. Officiellement, sur certains ravitaillements, il y avait un peu le système de limitation de membres de la crew. Puis en fait, sur le terrain, ça n'a jamais été mis en place. Après, voilà, enfin moi j'ai vu Courtenay, c'était son mari qui faisait son assistance comme d'habitude, mais ses parents étaient là et présents à ses côtés. Ils n'étaient pas éloignés pendant l'assistance ni quoi que ce soit. François avait sa femme et ses enfants. Voilà, on n'était pas non plus. Là, c'est un peu plus souple. Pour celles et ceux qui n'auraient pas de possibilité d'avoir une crew, et puis surtout celles et ceux qui, très intelligemment, vu le bazar que je vais vous raconter dans la suite, veulent s'assurer quand même d'avoir des affaires quand ils arriveront, on peut mettre un sac à chaque base de vie. Vous avez 4 ou 5 sacs qui vous attendront sur le parcours. Donc ça, c'est aussi un côté plutôt confortable. C'est pas comme sur l'UTMB, un seul sac à Courmayeur. Donc ça vous permet quand même de pouvoir partir léger, puisque vous allez avoir un sac presque tous les 25 bornes, donc c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que les bases de vie, ça n'est plus, on n'est plus au stade du ravitaillement, on est au stade de la cuisine. Parce que Claire l'évoque, parce qu'elle était elle sans assistance, mais avec un pacer, parce que son mari Quentin est venu sur le dernier tronçon pour l'accompagner. Il cuisine, mais vraiment, c'est-à-dire que vous pouvez commander un burrito, un burger, et on va vous le cuisiner sur mesure. Vous faites votre petite commande quand vous arrivez à l'entrée du ravitaillement, c'est assez surréaliste, hein. Et derrière, voilà, vous avez des personnes qui, pendant tout le temps où le ravito va être ouvert, vont cuisiner pour vous. Même chose d'ailleurs à l'arrivée, où vous avez, alors on est d'accord, c'est des ravitos à l'américaine, mais vous pouvez manger des patates sautées. Enfin, c'est assez dingue à voir des pancakes qui sont cuisinés et tout. Donc vraiment, on est sur un autre level, hein, de la notion de ravitaillement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, le suivi. Donc là, pour le coup, c'est ce que nous on a vécu. On n'est donc pas allé à la dernière base de vie, tout simplement parce que y a eu une histoire de pont qui s'est écroulé. Le parcours se faisait par la montagne. Il y avait plus de 4 heures de route en pleine nuit sur du chemin qui est du chemin forestier compliqué. Donc là, très clairement, j'ai pas, après mes deux expériences de l'UT4M l'année dernière et de l'Ultra 01 cette année, j'ai dit que ça suffisait les bêtises. Donc celui-là, on l'a zappé. Céline, la femme de Ludo, m'a raconté qu'ils ont mis plus de 4 heures à revenir en voiture. Pour le dernier ravitaillement, donc c'est assez dingue. Voilà, mais ça c'était propre à un incident, on va dire, technique, indépendant de la volonté de l'organisation. Mais ça n'empêche que le dernier ravitaillement où on est allé, on s'est pris une bonne heure de route, de caillasse, où on ne croisait que des quads et des 4x4. Et j'avoue que on s'est vraiment posé la question de ce qu'on foutait là, quoi, hein, parce que c'était quand même vraiment pas une route simple. Mais elle existait sur Google Maps, le GPS la connaissait, et c'est la réalité du Colorado, c'est que tout n'est pas bitumé, les routes ne sont pas toutes bitumées. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs que c'est pareil, j'évoquerai dans le débrief du podcast que j'aurais consacré à la partie tourisme, c'est que quand vous louez une voiture, réfléchissez bien au modèle. Parce que très clairement, la voiture premier prix de chez Avis, je suis vraiment pas sûre qu'elle passe partout. Donc, qu'elle passe sur des chemins qui sont censés être des routes, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que vous risquez d'être coincé sur pas mal d'endroits. Donc, il faut vraiment faire attention. Là, vraiment, j'ai béni le fait d'avoir le SUV, parce que je vois pas comment je serais passée avec une petite voiture classique. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir la circulation qu'il y a sur certains tronçons où tu te dis, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils foutent là, les gens? Et en fait, non, ils vivent, il y a des maisons, c'est vraiment assez génial. Pour en revenir à la course en elle-même, donc le départ est donné, voilà, il y a un décompte, il n'y a pas de speaker, il y a un peu de musique, mais vraiment, ça a un côté très amateur qui est assez rafraîchissant, on va dire les choses. 145 coureurs, autant vous dire qu'en 2 minutes, il n'y a plus personne. Et donc, vous vous retrouvez, voilà, le départ était donné à 6 heures. À 6h05, la place est vide. Et tous les spectateurs, enfin le peu de spectateurs qu'il y avait, il y en avait quand même quelques-uns, on se retrouve tous au café à faire la queue pour avoir un café. Dans le peu de cafés qui sont ouverts à Silverton. Parce que ça, par contre, c'est une des originalités, oui, de la ville. C'est que s'il y a une pauvre épicerie, et encore, voilà, une espèce de fourre-tout à l'entrée de la ville. Par contre, il y a pas mal de restaurants, de bars, parce que c'est une ville touristique. C'est une ville où vient le train de Durango, le fameux train à vapeur qui est assez connu et qui est, on va dire, une des attractions touristiques de la région. Donc là, pour le coup, vous pouvez ramener des souvenirs et il n'y a aucune difficulté pour trouver resto et café, coffee shop et tout. Autant si vous voulez vous acheter un paquet de pâtes, ça va être un peu plus. Enfin, c'est pas que ce soit un peu plus compliqué, mais presque, oui. Je ne sais même pas s'il y a une boulangerie. Je n'ai même plus pas le souvenir d'en avoir vu. Donc voilà, c'est une vie qui est quand même très particulière à Silverton. Voilà, le départ est donné quelques secondes et après commence la belle balade. Pour moi, un des plus beaux ravitaillements, c'est celui de Telluride, donc Telluride, qui est une station de ski là-bas très connue. Qui est, on va dire, l'équivalent de Megève, parce que c'est une station que moi je connais, donc on est quand même sur une station assez chic, mais où vraiment là, où ça se kiffe, c'est-à-dire que il y a vraiment énormément de pistes et tout, c'est un très très beau domaine skiable. L'hiver. Et donc, le ravitaillement est en bas. La ville est absolument incroyable. C'est toujours un peu la même config, c'est-à-dire que vous avez Main Street, la rue principale, qui est restée vraiment dans son jus avec des bâtiments qui sont rénovés et tout, mais qui sont vraiment dans le style Far West. Et le ravitaillement est juste à la sortie de la ville, installé à côté du parc, où il y a la piscine, le terrain de baseball et tout. C'est très vert, c'est vraiment chouette. Pour moi, c'est vraiment un des plus beaux de ce qu'on aura pu faire. Il est donc au début, hein, donc les coureurs sont assez en forme. Voilà. Et après, par contre, j'avoue que oui, c'est un peu une des. Mais c'est logique, puisque c'est ce que je vous expliquais. En fait, il n'y a rien dans la montagne. C'est vrai que c'est les ravitaillements sont vraiment, et les bases de vie sont vraiment du coup toujours dans la vallée. Donc à part Animal Folks, où je suis donc allée en voiture, où là on aura un côté un peu sauvage. Ils montent un camp dans la montagne, donc c'est vraiment chouette. Voilà, donc c'était un petit débrief. L'arrivée se fait au même endroit. Il faut reconnaître que bah, les premiers arrivants la nuit, ben c'est pareil, hein, on doit être une cinquantaine à les attendre, donc c'est très intimiste. Ça, c'est clair que c'est pas l'arrivée de l'UTMB, hein, je vous le confirme. À la rigueur, c'est vraiment pour les derniers qu'il y a le plus de monde, puisque là, pour le coup, il fait jour, que l'organisation monte le samedi après-midi. Il y a des activités pour les enfants, il y a un château gonflable et tout, ce qui fait que du coup, il y a aussi pas mal de monde qui peut rester et s'occuper le temps que les derniers arrivent. C'est vrai que c'est assez étonnant. J'avoue que ce côté ultra intimiste avec cette telle concentration de coureurs élites et une course qui est suivie quasiment dans le monde entier à ce moment-là, c'est assez drôle de voir en fait le décalage que vous allez avoir entre le suivi à l'international et la réalité sur le terrain qui donne vraiment l'impression, enfin, je n'ose même pas imaginer ce qu'était cette course au tout début, dans les années 90, où il n'y avait pas les réseaux sociaux de cette façon-là et tout. Ça devait vraiment être très très drôle. Donc voilà. Je vous mettrai, bon bah voilà, si jamais ça vous intéresse, les infos pratiques sur Silverton. Si ça vous dit, Ludo là aussi en a parlé, bah la trace GPX est de toute façon trouvable, hein, c'est pas un mystère, le parcours a un petit peu évolué, mais vous pouvez trouver la trace sans aucun problème, et faire donc ce qu'on appelle la soft rock 100, c'est-à-dire partir en autonomie, et faire le parcours tout seul comme un grand. Il ne faut donc pas oublier ce que je vous ai dit, c'est que en altitude, ben, voilà, vous ne comptez pas sur un refuge pour boire un coca, mais le parcours étant conçu pour redescendre donc aux fameuses bases de vie où on trouve donc voilà, vous en avez plusieurs où là vous êtes en ville, donc mais après c'est une question d'horaire. Mais si vous faites ce qu'a fait Ludo, c'est-à-dire de juste camper, ça peut tout à fait s'organiser, je pense, et partir dans une autonomie relative. On peut camper, vous pouvez poser votre tente, votre échoue sans aucun problème. C'est assez, d'ailleurs assez bizarre parce que autant peuvent être assez stricts sur certaines choses par rapport enfin, au camping-car et tout. Autant bah, là, votre tente dans la nature, c'est beaucoup plus simple. Les animaux sont présents, ça, je confirme, puisqu'on a même vu un ours brun, donc c'est pas une légende urbaine. Hein. Mais bon, voilà, apparemment, ils sont pas l'air très méchants, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait bouffé un coureur. Enfin voilà, donc c'était juste un petit débrief pour compléter un peu ce que vous avez pu voir sur Insta en photo et en vidéo. Je reviendrai pour toute la partie tourisme qui sera beaucoup plus complète. Mais voilà, si un jour vous avez envie de vous lancer, viser la soft rock, je pense que ce sera le plus sûr. Et vous vivrez quelque chose d'assez unique parce que le parcours est vraiment dingue. Je crois que on est vraiment sur quelque chose de très très unique et qui vaut la peine de se faire un jour dans sa vie de trailer. Voilà, bah écoutez, je vous mets le lien en dessous avec toutes les infos liées à les restos, le logement, parce que ça aussi c'est un point qui est très très important. C'est loin d'être simple et on est dans un des états les plus chers aux États-Unis. Ça, il faut avoir bien conscience que le niveau de vie au Colorado, c'est un état qui est, entre guillemets, riche, même si c'est un peu plus compliqué que ça, vous vous en doutez bien, mais ça reste un État qui, voilà, du fait de son tourisme, puisque c'est un des États les plus, où les Américains viennent prendre leurs vacances, ça c'était très très visible. Donc le niveau de vie est assez élevé. C'est pas une destination économique et Silverton encore moins, surtout pour l'hôtellerie, puisque le fait que ce soit un village, ça rend les choses encore plus limitées. Donc je vous ai mis les adresses et puis quelques bons plans en resto. Voilà, bonne journée!